RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On a parlé dans un premier temps d'un débat qui était compliqué, qui est compliqué en France, très sensible en tout cas. Et justement, quand il s'agit de débattre autour de sujets, que ce soit la fin de vie ou bien sûr d'autres sujets, surtout à l'approche de Noël, eh bien les discussions peuvent se terminer parfois en pugilat. Alors comment apprendre à poser ses arguments? Comment apprendre à débattre? Il y a peut-être une clé qu'on va vous présenter jusqu'à 11h ce matin. Dans Je pense donc j'agis, ce sont les cafés philo. Soyez les bienvenus, toujours en direct avec vos témoignages et vos réactions. Est-ce que vous avez appris à débattre sereinement? Comment vous faites, vous, quand il s'agit de porter une discussion, de vous faire entendre distinctement, sans hurler si possible? Comment est-ce que vous avez déjà participé à des ateliers, des cafés philo ou des ateliers qui vous permettent d'apprendre à débattre? On vous attend dès maintenant au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et puis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les jeudis, nous retrouverons Stéphanie Gallet en toute fin d'émission avec l'opération Jeudi Photo. Stéphanie nous parlera d'une photo choisie par le CCFD Terre Solidaire pour montrer, en tout cas vous expliquer une situation dans le monde. Ce sera à 10h55. Pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Oriane Faisandier.
Bonjour, enchantée d'être là.
Eh ben merci d'être avec nous dans Je pense donc j'agis. Vous êtes formatrice à Nouvelle Acropole Paris 5. C'est une association qui est tournée autour de la philosophie, on va dire. Mais en tout cas, vous participez souvent à des cafés philo. Merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour René Guichardan. Bienvenue sur RCF. Vous êtes membre d'une association qui se trouve à Annemasse et qui s'intitule Café Philo. Ça porte bien son nom. Et enfin, notre troisième invité, c'est vous, Frédéric Baumer. Bonjour. Frédéric Baumer, vous n'êtes pas encore avec nous. On va vous retrouver dans un instant de l'association Les Petits Socratiques. René Guichardan, qu'est-ce que c'est un café philo?
C'est avant tout un lieu public où toute personne est la bienvenue pour y participer. Et l'idée est que ça réunisse une diversité de personnes et donc d'idées.
Voilà, ça c'est vraiment l'objectif du café philo. Hein. Dans philo, on pense tout de suite à la philosophie. Est-ce que tout tourne autour de la philosophie ou pas forcément?
Alors, en fait, ce qu'on entend par philosophie, c'est la capacité à interroger les présupposés, les idées à partir desquelles on pense. Ce n'est pas forcément la philosophie académique et celle des auteurs, mais c'est une attitude philosophique.
Voilà, une attitude philosophique. Oriane Faisandier, pour vous, les cafés philo, est-ce que c'est ouvert à tous, toutes et tous?
Oui, absolument. C'est même le principe de base. C'est un espace public, comme l'interlocuteur avant moi l'a très bien dit. Et l'idée, c'est de venir comme on est, avec ses présupposés, ses implicites aussi. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de niveau, de prérequis de niveau pour participer, mais juste l'envie de se questionner. Et ce qu'on va vivre pendant un café philo, eh ben c'est une sorte de petite aventure humaine, celle de la pensée, ou plutôt celle de déconstruire un certain nombre de choses que l'on croit penser, mais qui en fait ne relèvent pas de la pensée. Donc ça peut être assez houleux parfois, et c'est pour ça, mais j'imagine qu'on va le voir, on se donne des règles de base pour pouvoir commencer à dialoguer.
Voilà. Ça s'apprend pour vous, de débattre, discuter, ça s'apprend véritablement?
Alors oui, ça s'apprend, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'avoir une posture philosophique, donc on peut avoir un intérêt, mais débattre nécessite une certaine attitude, une certaine retenue, par exemple la capacité à écouter l'autre. On se rend compte que pour pouvoir penser, il faut d'abord être en mesure d'écouter les arguments qui sont faits et ensuite être en capacité de les reformuler. Et rien que ces deux étapes, on s'aperçoit que c'est pas du tout acquis. Et donc, en tout cas, le début du café philo, on commence par pratiquer l'écoute et la reformulation avant de rentrer dans le match, si je puis dire. Mmh.
Bonjour à vous, Frédéric Baumer.
Comment ? Allô ?
Et on vous entend ?
Allô, allô.
Vous m'entendez, Frédéric Baumer ?
Allô, est-ce que quelqu'un peut m'appeler, s'il vous plaît ?
Alors oui, on va l'appeler, on va le retrouver dans un instant pour qu'on l'entende distinctement. Enfin, en tout cas, on l'entend, mais il ne nous entend pas, hein, comme vous avez pu l'entendre d'ailleurs. Un café philo, René Guichardan, alors on l'a dit, c'est ouvert à tous, hein, pas forcément aux amateurs de philosophie. Ce qui est intéressant aussi, c'est la place des jeunes hein, dans ces cafés philo. Ça peut leur permettre... dans leurs études aussi, de pouvoir avoir quelques clés pour apprendre à discuter, à poser des arguments, à les organiser également, d'après vous ?
Alors, dans leurs études, je ne pourrais pas le dire parce que ça va dépendre des cafés philo en question, c'est-à-dire s'ils se réfèrent à des auteurs ou pas, s'ils suivent une méthodologie ou pas. Mais dans tous les cas, ça va servir à l'oral et ça va servir à... comme l'a dit aussi mon interlocutrice avant, à écouter, à reformuler, à comprendre la question et à essayer d'inscrire sa réponse dans la question. Donc on est dans l'ordre d'un apprentissage général et qui peut être plus ou moins précis et spécialisé selon le type de café philo que l'on fréquente.
Et vous, Oriane Faisandier, qu'est-ce que vous en pensez, notamment pour la place des jeunes ?
Je dirais qu'elle est naturelle et assez évidente parce que, enfin, en tout cas, nous, on le voit dans les cafés philo qu'on peut animer à Paris. On le voit notamment depuis la fin du confinement. Il y a une sorte d'explosion de cette activité. On a multiplié par 3, par exemple, la fréquentation de ces cafés philo. On accueille en moyenne entre 25 voire 35 personnes aujourd'hui dans nos cafés philo. On est obligé de refuser du monde. Et ce qu'on voit, c'est que la part des jeunes est de plus en plus croissante. Eux, ils arrivent avec leurs questions existentielles, en fait. Certains font de la philosophie dans leur cursus universitaire, par exemple, mais c'est une minorité. Donc, on voit que les cafés philo, ou en tout cas la philosophie, intéresse de plus en plus de personnes. On avait un public habituel, on va dire, d'une cinquantaine d'années ou qui était ce public se pose des questions de base sur une certaine étape de la vie. Quel est le sens que je donne à ma vie et qu'est-ce que j'ai fait de tout ça. Mais là, c'est vraiment une sorte de bascule, en tout cas que nous, on voit sur le terrain, avec ces jeunes qui sont assez désorientés et qui cherchent dans la philosophie un outil ou des solutions ou des réponses pour pouvoir s'aiguiller dans leur propre choix de vie. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui.
Alors, il y a plein de choses à dire. On l'entend autour des cafés philo. Et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne et discuter avec nos invités ce matin. On a Mathieu, justement, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Mathieu. Mathieu, est-ce que vous êtes là ? Mathieu ?
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, moi, je propose des solutions lors des ateliers philo parce que, en fait... On s'occupe souvent de déconstruire, mais en fait, il faut construire surtout dans les ateliers philo. Et je propose la monnaie publique et de réindustrialiser le pays, quoi.
c'est assez direct. Et alors, un sujet comme ça, justement, ça fait débat déjà.
Oui, ça fait débat parce qu'en fait, ils connaissent pas. Mais en fait, les jeunes connaissent l'économie pour comme solution. C'est les adultes qu'il faut convaincre.
Merci beaucoup Mathieu pour votre témoignage ce matin et pour cette idée. René Guichardan, comment vous sélectionnez les sujets qui vont être abordés à chaque fois lors des cafés philo?
Alors, en fait, on part du principe que c'est aux participants, en tout cas en masse, d'amener les sujets et de proposer des questions. Et là, c'est par un vote, généralement, que la question est retenue. Et pour réagir à à l'intervention précédente, je trouve assez intéressant d'être confronté à la réalité de ce que l'on vit, et notamment d'avoir des opinions ou une argumentation concernant des idées sur l'économie. Mais précisément, c'est-à-dire qu'on questionne les idées que l'on a, du moins on se dispose à les questionner et non à les affirmer nécessairement.
Oriane Faisandier, même question pour vous. Comment ça se passe de votre côté? D'ailleurs, si on entre dans les coulisses d'un café philo, comment ça se passe? Racontez-nous un peu.
Eh bien, déjà, on va accueillir des gens que l'on ne connaît pas et qui viennent d'horizons très très différents en termes de niveau, on va dire, de bagage de formation et de niveau, enfin, ou d'origine en tout cas culturelle et religieuse, ethnique. Enfin, il y a vraiment des profils très diversifiés. Il y a aussi un public de petits fidèles qui revient régulièrement. Et une fois que tout le monde est rassemblé dans cet espace, donc nous on a plusieurs espaces, mais en général c'est très convivial, on fait une petite introduction où on explique bien sûr ce qu'on va faire et on explique les règles du jeu pour pouvoir dialoguer, puisque on vient tous, comme je l'ai dit, d'horizons très différents,
oui,
avec des façons de fonctionner très différentes, une appréhension de la philosophie qui est propre à chacun et chacune. Et donc la première chose à faire, c'est de créer un espace commun. Et pour créer un espace commun qui soit propice au dialogue et à l'échange, on se donne un cadre de règles. Ces règles, elles sont simples, c'est-à-dire déjà tout simplement, on lève la main pour prendre la parole et on donne son prénom pour sortir de l'anonymat. Une autre règle, c'est de formuler des idées claires et concises. Une autre règle consiste à ne pas donner d'exemple, et ça c'est une contrainte qu'on donne pour essayer d'aller directement au concept. Là, c'est un parti pris que l'on a. Et de répondre à mes questions quand j'en ai. Et on fait aussi quelque chose qui est de s'appuyer sur le sens commun. C'est-à-dire qu'en philosophie, la première chose qu'on fait en général, c'est de donner des définitions. Et nous, on fait le pari de ne pas donner de définition, mais de s'appuyer sur le sens commun pour que dans le dialogue, dans le débat, puissent émerger tous les implicites que l'on a dans les définitions. Et ça crée en général pas mal de confusion, de friction, mais c'est très intéressant puisque ça permet aux gens d'aller plus loin dans le questionnement et de se rendre compte de leurs propres a priori sur les termes et les concepts qu'on aborde. Voilà.
Et les jeunes sont assez justement sensibles à ça, sur cette nécessité finalement autour d'un sujet d'aller au fond des choses.
Ah ben, ils sont très demandeurs. On le sent clairement, c'est qu'il y a un besoin et d'authenticité, un questionnement qui est authentique et réel sur ce qui se passe dans le monde, dans leur propre vie. Et il y a aussi ce qu'on voit de plus en plus, c'est un vrai besoin de profondeur par rapport à la superficialité de l'actualité que l'on vit, ou en tout cas la façon dont on l'aborde. Et les jeunes ont besoin d'espace-temps pour pouvoir se rencontrer en profondeur dans des relations qui sont plus authentiques, moins superficielles, et pour pouvoir discuter entre eux de sujets graves au final, comme le sens de la vie et l'orientation qu'ils vont donner à leur vie. Et ils ont besoin d'échanger là-dessus, clairement.
Bonjour Frédéric Baumer.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Gourmand.
Ça y est, on vous a retrouvé. Je suis heureux de vous entendre. Alors, je crois qu'on a eu quelques soucis pour nous connecter ensemble, mais on vous entend distinctement et c'est l'essentiel. Voilà, dans cette émission. Frédéric Baumer, comment vous avez découvert les cafés philo, vous ?
Comment j'ai découvert les cafés philo ? Par la philo. C'est-à-dire que je suis un passionné de philo depuis très longtemps, depuis ma terminale. J'avais un prof de philo. C'est souvent là que se passe la magie. J'avais un prof de philo qui m'a vraiment enthousiasmé, qui m'a lancé dans des bouquins qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, y compris faire partie d'associations de philosophes, etc. Enfin, je suis très branché philo et j'adore ça, et j'adore transmettre cette philosophie. J'adore le bonheur que ça me donne, parce que je sais pas si ça a été dit, parce que je pouvais pas écouter, j'étais débranché tout à l'heure.
Ouais.
Mais c'est un vrai bonheur la philo, c'est un vrai bonheur de... d'y penser, comment dirais-je, d'approfondir le monde, d'approfondir l'art, d'approfondir les choses, d'approfondir les relations, c'est de la joie.
Pas forcément que de la philosophie, hein, et ça on le rappelle.
Oui, pas forcément que de la philosophie, bien sûr. La philosophie, c'est un outil. Ça me fait penser à ce que disent les bouddhistes. Les bouddhistes disent, pour passer de l'autre côté, on a besoin d'un radeau. Peut-être que la philo est un radeau pour arriver à l'autre côté, qui est la sagesse, le bonheur, la joie.
Vous êtes membre d'une association qui s'appelle les Petits Socratiques, Frédéric Baumer. Je trouve que c'est un très joli nom. Qu'est-ce que vous faites dans l'association ?
Qu'est-ce que je fais personnellement ? Je fais partie du conseil d'administration, je fais partie des orientations, et puis surtout je suis animateur à la fois en urbain, comme on dit chez nous, c'est-à-dire en ville, en EHPAD également, nous allons régulièrement en EHPAD, dans les prisons, que ce soit la maison d'arrêt ou la maison, le centre pénitentiaire de longue durée de Liancourt, et aussi en ce qui me concerne auprès des enfants.
Et à chaque fois, c'est une approche qui est assez différente. C'est-à-dire que vous dites, vous êtes animateur, Frédéric Baumer. Vous avez été formé pour être animateur.
Alors, notre système à nous, je ne sais pas si les autres invités l'ont dit, notre système à nous, c'est qu'on est toujours deux. Et donc, la première année, on se tait, on accompagne, on regarde. Et c'est seulement à partir de la deuxième année qu'on prend la parole, qu'on se sent assez... Voilà, c'est quelque chose de... C'est un tuilage, comme on dit.
Vous pensez que le monde entier devrait participer à des cafés philo ? C'est vrai qu'on est dans une société où, alors je ne veux pas généraliser, mais ça peut gueuler très vite, hein, si je peux me permettre cette expression. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas, on se demande si c'est un lieu pour débattre. Souvent, quand on se retrouve en famille, là aussi, ça hurle. Frédéric Baumer, est-ce que voilà, chacun devrait essayer de participer à un café philo pour... En tout cas, apprendre à ce qu'est un débat.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut être volontaire. Un café philo, ça marche quand les personnes sont venues en ayant envie de découvrir ce que c'est, envie d'avancer, ou bien ce sont des habitués. Ça m'est arrivé notamment dans les quartiers mineurs des prisons, d'avoir des jeunes qui étaient poussés dans le dos en disant « si, si, il faut que tu y ailles ». Et là, c'est très, très difficile. Ça marche pas bien. Donc, le volontariat, me pense, est quand même la condition numéro un pour que ça fonctionne.
Oriane Faisandier, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. On dit que la philosophie aussi sert à aiguiser et promouvoir le libre arbitre et donc la démarche volontaire est, on va dire, le premier exercice du libre arbitre. Donc c'est pas quelque chose qui est contraint, puisqu'on doit consentir à l'exercice, consentir aux règles qui vont être données. Donc oui, c'est pas quelque chose qu'on fait à contre-cœur.
Et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23. Racontez-nous comment vous débattez avec vos proches ou avec vos collègues. Est-ce que vous arrivez à peut-être rester calme, à vous faire entendre, à organiser vos arguments? Venez nous donner quelques bonnes idées, ça pourrait nous servir en cette fin d'année. Et puis dites-nous si vous avez déjà participé à des cafés philo, ou en tout cas à des ateliers qui ressemblent. 04 72 38 20 23, on vous attend également dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On a reçu un message de Marie qui nous dit: beaucoup de problèmes dans les débats viennent du sens différent qu'on donne aux mots. Albert Camus l'a écrit ainsi: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ça vous parle, René Guichardan ?
Oui, absolument. C'est l'un des problèmes que l'on rencontre, c'est-à-dire la définition ou les idées préconçues que chacun attache à un mot particulier. Et il est clair que, et l'interlocutrice d'avant l'a précisé, il faut faire advenir la définition, alors soit en entrée, soit dans le cours du débat, pour éclairer précisément la mésentente qu'il y avait par rapport à l'idée qu'on se faisait d'un mot en particulier.
Oui, Oriane Faisandier, est-ce que cette citation d'Albert Camus, elle correspond vraiment aussi à l'objectif des cafés philo ?
Oui, je crois qu'elle est très juste. Et c'est une expérience qu'on fait à chaque café philo. C'est-à-dire que au départ, il y a un énoncé avec des arguments. Et donc le premier argument va être formulé par un participant et les mains vont se lever, en tout cas pour dire on n'est pas d'accord ou on a un contre-argument. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, on s'aperçoit que les désaccords étaient surtout liés à une compréhension différente d'un même mot et que dans le fond, les gens au final ne sont peut-être pas aussi en désaccord que ça. Donc clairement, je dirais que c'est 90% parfois du désaccord vient simplement d'une compréhension différente d'un même mot. Donc c'est très très fort, je pense qu'Albert Camus avait vu juste.
C'est tant mieux si Albert Camus avait vu juste. Est-ce que vous pensez, Frédéric Baumer, qu'on est dans une société où... Je vais pas dire que le débat n'a plus sa place parce que ce serait contraire à ce qu'on fait nous chaque matin dans Je pense donc j'agis, mais où les gens sont peut-être moins patients quand il s'agit de partager des idées.
Je suis pas tout à fait sûr. Je reviens une petite minute sur ce qui concerne les définitions.
Oui.
Pour moi, c'est la première séquence. La première séquence, quand on lance un café philo, c'est qu'est-ce que vous en pensez du mot courage, du mot amitié, du mot etc. Et cet échange est déjà, où on essaie de se mettre d'accord, c'est déjà bien démarré, me semble-t-il, le café philo quand on arrive à un consensus. C'est pas toujours facile. Bon, maintenant, sur la philosophie dans la société, c'est vrai qu'il me semble que le confinement, mais ça c'est un avis personnel, hein, il me semble que le confinement a favorisé quand même une envie de réfléchir, une envie de débattre, une envie d'approfondir, de comprendre, de donner du sens. Il me semble.
Vous constatez également ça, Oriane Faisandier, que depuis le confinement, les gens sont peut-être plus aptes à débattre, ou en tout cas à pouvoir échanger librement sur des sujets.
En tout cas, je pense qu'il y a une appétence qui se fait sentir de façon plus prégnante. Aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais nous, on a vu clairement un avant et un après confinement concernant les cafés philo que l'on a organisés. Je ne sais pas si les gens sont plus aptes à débattre. En tout cas, l'envie, elle est là, clairement. Donc voilà, nous, on est là pour donner quelques clés, quelques outils pour commencer ce cheminement-là.
Alors ces clés, on va continuer d'en donner dans cette émission, je pense, donc j'agis avec vos appels au 04 72 38 20 23. On va écouter un peu de musique et puis on se retrouve juste après. Avec vous trois, René Guichardon, Frédéric Baumer et Oriane Faisandier. À tout de suite après Angèle, tout de suite sur RCF.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et les dangers, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne notre avis surtout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai. T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.
Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et les dangers.
dis que c'est pas ma faute. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
C'était Angèle sur RCF, Amour, haine et danger, extrait de son dernier album. Alors, on continue de parler des cafés philo avec nos trois invités ce matin. Vous les entendez, René Guichardin, Oriane Faisandier et puis Frédéric Baumer. Est-ce qu'il y a des principes, Frédéric, des principes de fonctionnement à respecter absolument lors des cafés philo, par exemple en termes d'égalité de la parole, du temps de parole?
Plus que l'égalité, c'est plutôt l'écoute, que chacun soit en écoute de l'autre, qu'il soit pas dans sa petite bulle, voulant sortir sa petite phrase, non, qu'on soit aussi en écoute, et donc on s'écoute parler. Je crois que c'est la règle numéro un. C'est pas tellement le temps de parole, c'est plutôt l'attention aux autres. Et puis il y a d'autres règles évidentes, comme pas de diffamation, pas de discrimination, pas de voilà. Et puis le truc qu'on, comment dirais-je, l'idée dès le départ, c'est que non seulement qu'est-ce que c'est que la philosophie, mais aussi d'être accepté d'être dérangé par les idées développées, que comment dirais-je, que nos convictions soient et la possibilité d'être commentées, d'être contestées, d'être enrichies. Et voilà, je crois que c'est des règles importante dans le fonctionnement d'un café philo.
Est-ce qu'il y a un vote, peut-être en début de séance, alors séance c'est un grand terme, en début d'atelier, on va dire, Oriane Faisandier, pour définir le thème qui va donc être retenu pour l'atelier, pardon?
Alors, dans les ateliers que nous, on organise, non. On ne fait pas de vote, on propose un sujet. Par exemple, les sociétés sont-elles forcément injustes? On propose un intitulé et en général, les gens viennent pour le sujet. Ce qu'on va faire en début d'atelier, c'est-à-dire qu'une fois que les règles auront été posées, que les définitions auront été écrites pour chacun dans leur coin, on va faire une sorte de vote à main levée pour savoir qui pense oui ou qui pense non par rapport à l'intitulé de la question. Donc là, on voit les mains se lever et en fonction de ça, on va pouvoir commencer le débat. Et cet exercice, on le refait à la fin du café philo pour voir si certaines personnes ont changé d'avis. Et en général, oui, mais c'est souvent une minorité de personnes.
Fatia nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous, Fatia.
Bonjour à tous et merci pour tous les sujets que vous abordez, vraiment qui sont très forts et fondamentaux pour moi, voilà, pour que j'ai envie de commencer par dire j'aime la vie et j'ai envie de la transmettre. Donc quand c'est un partage, c'est vrai que je vais partager, je vais communiquer avec beaucoup de sérénité et comme une espèce de lumière, de phare devant, vous voyez, d'espoir, de... Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Après, quand je vais défendre les personnes, je suis bénévole auprès des personnes âgées, dans l'ombre, je vis ça dans l'ombre pour vivre ça pleinement et à l'état brut, c'est-à-dire je ne suis pas dans les contraintes ou dans les malentendus, puisque vous servez la personne âgée, ou les enfants, ou les handicapés, ou la psychiatrie, ça dépend qui. En général, c'est des personnes qui viennent à moi, c'est des histoires qui viennent à moi, et j'arrive à faire face.
Oui. Mais En tout cas, vous restez toujours très calme hein, quand il s'agit de défendre une position.
Quand c'est défendre une position, j'apprends. Je ne peux pas dire que je suis calme, parce que vous défendez la personne, donc vous êtes confronté avec l'autre. Quand c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si, par exemple, j'ai la personne à côté de moi et je vais faire quelque chose avec elle, je vais l'emmener en voyage ou je vais parce qu'elle me l'a demandé, parce qu'elle était en détresse. Donc là, il va avoir un peu de pas d'énervement, mais d'opposition, mais pas de calme. Oui, c'est pas calme. Mais si c'est pour débattre sur des échanges, on est assis sur une chaise, on débat, on parle. La personne qui est en face, elle n'est pas obligée de croire ou... Vous êtes
ou d'être d'accord avec vous. Ouais.
Voilà, d'être d'accord avec vous. Voilà,
c'est le principe d'un débat aussi, Fatia.
Voilà,
on est d'accord.
Donc moi, si c'est sur un débat, je vais être ouvert sur tout.
Ouais.
D'ailleurs, j'enseigne sur mes enfants, je leur dis papa et maman se battent pour vous, on se bat pour vous, pour que vous soyez libres dans votre croyance, dans votre sexualité, dans votre choix professionnel. C'est pas juste des mots qui sont dits, mais c'est une vérité.
Eh ben, merci beaucoup, Fatia, d'avoir partagé avec nous ces belles valeurs. Frédéric Baumer, qu'est-ce que vous en pensez dans la démarche de Fatia?
Ben, c'est exactement ça. C'est de l'écoute, c'est de la, comment dirais-je, c'est du partage. C'est de, en rien, essayer de convaincre dans cette idée. Ça me fait penser à quelque chose qui m'arrivait tellement souvent que ça en vient, vraiment caractéristique. Combien de fois, en animant un café philo, et pourtant c'est plusieurs heures de travail en amont, hein, combien de fois en animant un café philo, j'apprends moi-même des trucs, j'apprends moi-même des nuances, un enrichissement sur l'idée principale, c'est un apport qui est réciproque. J'apporte effectivement aux participants, j'essaye de faire en sorte que les participants s'apportent entre eux, mais moi-même en tant qu'animateur, Qu'est-ce que je m'enrichis également, outre le plaisir d'animer.
Eh ben, on va continuer d'en débattre, en tout cas d'en parler, avec beaucoup de bienveillance dans cette émission, je pense. Donc, j'agis toujours avec vous ce matin. Merci, Oriane Faisandier. Hein, je vous libère, c'était prévu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Et on mettra les références de votre association sur notre site rcf.fr. René Guichardon et Frédéric Baumer, vous restez avec moi. Et puis, vous faites comme Mathieu et Fatia qui sont venus à l'antenne. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Dites-nous comment vous avez l'habitude de débattre. Est-ce que vous gardez votre calme? Est-ce que parfois c'est compliqué? Et puis si jamais en face de vous, vous avez une personne qui peut-être hausse le ton, quelle est votre réaction? Est-ce que vous arrêtez le débat ou vous essayez de calmer la personne? Racontez-nous comment vous débattez au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Émission présentée par Melchior Gormand.
Et nous découvrons les cafés philo ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. René Guichardon, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Café Philo et qui se trouve à Annemasse. C'est en Haute-Savoie, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas me tromper parce que je sais qu'il y a souvent une guéguerre entre Savoie et Haute-Savoie. Frédéric Baumer, vous êtes animateur dans une association qui s'appelle les Petits Socratiques. En tout cas, on l'entend depuis le début de cette émission, hein, les cafés philo qui ont pour objectif vraiment d'apporter des débats très sereinement, en tout cas. Il y a un encadrement, Frédéric Baumer, dans les cafés philo. Est-ce qu'il y a une personne, peut-être un distributeur de la parole, un médiateur?
Alors oui, on était, comme je le disais tout à l'heure, on anime toujours à deux. Et il y en a un qu'on appelle le présentateur, l'autre qu'on appelle l'animateur. Sauf que c'est pas aussi régulier que ça, puisque c'est souvent le présentateur qui a les débuts de réponse par rapport aux échanges qu'il y a dans le groupe. Donc l'animation se fait à deux, là, que c'est une co-animation en fait. Mais disons que théoriquement, il y a un présentateur et un animateur.
C'est votre règle de base au Petit Socratique.
La règle de base, c'est surtout être deux. Parce que c'est par, je pense notamment dans les prisons, c'est pas toujours complètement facile, et d'être deux, c'est pas mal.
Dans les prisons, quel sujet vous abordez?
Bah, quasiment les autres, pas tout à fait les mêmes qu'ailleurs, pas tout à fait, parce que c'est vrai que d'aborder, je sais pas moi, la liberté, d'aborder, enfin, une fois qu'on a essayé de disserter avec le groupe sur la liberté, ça n'a pas été facile, hein, parce que ce qui se passait dans la prison, nous, on manque de liberté, prenez des notes, on nous fait ceci, on nous fait cela, ça a été très difficile à reprendre.
Mais sinon, on aborde la même chose. J'ai mes yeux, je cherche ma copie. Donc, mes yeux, ce qu'on a fait, par exemple, en 2002, c'est quels sont les ressorts du courage, le rire et l'humour nous sont-ils nécessaires, comment, que peut-on faire face à la souffrance, etc. Voilà, c'est des sujets... c'est souvent, la plupart du temps, des sujets de ce qu'on appelle la philosophie morale. C'est relativement peu souvent des sujets de philosophie politique. Par exemple, j'anime en ville un sujet qui est « Peut-on désobéir aux lois ?» Je vais peut-être pas l'animer en prison, voyez-vous.
Il peut y avoir parfois, René Guichardon, des sujets sensibles. Alors, dans la première partie de Je pense donc j'agis, on parlait de la fin de vie. On sait qu'en France, c'est un sujet qui est quand même très sensible. Et même pour nous, sur RCF, voilà, on y va petit à petit. Il peut y avoir la tentation, dans certains débats, en tout cas dans les cafés philo, de donner une position politique, une forme de militantisme. Est-ce que ça, c'est interdit ?
Chez nous, à Annemasse, rien n'est interdit.
Oui.
On veut délibérément que la parole soit libre. Et d'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être une différence avec mes interlocuteurs. Nous sommes un café philo, nous ne sommes pas un atelier philo.
Oui.
C'est-à-dire, nous ne faisons pas pédagogie de philosophie, mais nous permettons que ce lieu soit libre pour précisément faire pratique de philosophie. Et pratique, c'est-à-dire d'être impliqué dans son être, dans sa vie, dans ses convictions, de sorte à faire exercice là de philosophie, c'est-à-dire de se prêter à la possibilité de questionner les présupposés à partir desquels on pense. Donc, pour revenir à votre question, moi, je vais tenter d'encourager l'engagement dans sa pensée pour pouvoir la questionner.
Frédéric Baumer, sur cette même question, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça se passe dans l'association Les Petits Socratiques ?
Je pense la même chose que René. On n'est surtout pas des conférenciers sur la philo. On n'est surtout pas porteurs d'un bagage de philo. D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'avons pas de diplôme particulier en philo. On est tous passionnés en tant qu'animateurs. On est tous passionnés de philo, mais on n'est pas particulièrement... Non. On n'est vraiment pas conférenciers. On est vraiment là pour faire réagir le groupe, pour poser des questions, pour le faire échanger, pour qu'il développe l'essence même de la philo, c'est l'esprit critique. On a pour l'esprit critique, j'ajouterais en ce qui concerne les prisons, c'est aussi, comment dirais-je, mieux penser sa vie pour mieux vivre sa pensée, en quelque sorte. De réfléchir, il y a aussi cette dimension-là qui est de comment dirais-je, d'une omission quand on va en centre pénitentiaire.
Ouais. Qu'est-ce que c'est, quand vous dites avoir l'esprit critique, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce qu'on l'entend souvent, cette expression.
Eh bien, je reprendrai, il y a un philosophe Alain, le philosophe Alain qui a dit « penser, c'est dire non ». Penser, c'est dire non, ça veut dire quoi ? Dans un premier temps, c'est de dire non à une pensée pour essayer de la réfléchir. Mais une pensée qu'on a soi-même. C'est de prendre du recul sur les évidences, sur les pensées, sur les énonciations, sur ce qu'on entend, pour y réfléchir. L'esprit critique, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus étendu ? Sur quoi ça ramène, etc. L'esprit critique, c'est de jamais prendre au premier degré, si j'essaie de définir.
René Guichardon, même question pour vous sur l'esprit critique. Ce que j'entends, en fait, avec ce que vous dites depuis tout à l'heure, et c'est ce que Oriane partageait avec nous il y a quelques instants, c'est que quand on sort de ces cafés philo, on sort avec des clés, une forme de grille de lecture peut-être pour mieux appréhender une discussion, un débat.
Alors, là vous posez une question qui n'est pas simple, c'est-à-dire jusqu'à quel point...
Avant on est là pour discuter.
Voilà, jusqu'à quel point nous est-il possible de prendre du recul par rapport à nos propres pensées ? Et donc il y a des méthodes, par exemple la suspension momentanément de son jugement, l'écoute de l'autre, la possibilité de reformuler la pensée de l'autre, de voir ce qui oppose deux pensées qui ne sont pas du même avis, comment comprendre la la différence de ses avis. Et la capacité critique, c'est la capacité à prendre conscience des éléments par lesquels on pense. Et il y a souvent des postulats de départ qu'il faut s'autoriser à examiner.
Et alors, une fois qu'on les a examinés, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe?
Donc, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, on peut faire l'examen de ses pensées quasiment à l'infini. Et l'idée, pour reprendre une expression de Kant, c'est de pouvoir s'orienter dans la pensée. Et on s'oriente dans la pensée à partir du moment où on sait, on va dire, quel usage on va en faire, c'est-à-dire un usage personnel ou pour prendre des décisions ou pour intervenir dans un débat. Et il s'agit de poser les éléments du débat. Donc, juste pour clore cette partie, enfin pour la préciser, ce qui va être important, c'est les éléments de vérité à partir desquels on se pose, et avec ces éléments de vérité, donc jusqu'à quel point c'est vrai, les éléments éthiques, c'est-à-dire de jugements moraux qui accompagnent cette vérité.
Donc ça, on y va étape par étape.
Exactement, oui. Ouais. Et ce sont des étapes qui sont permises par le dialogue si la personne veut avancer dans le dialogue.
Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, René Guichardon, finalement le temps aussi que ça peut prendre de réussir, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais de réussir à débattre, à discuter tranquillement, Frédéric Baumer. Vous avez le sentiment, Frédéric, que ça s'apprend véritablement et surtout ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir quelques réflexes, quelques automatismes?
Eh ben, si déjà la personne sort du café philo avec deux idées, la première qui est d'écouter, qui n'est pas resté dans ma petite bulle, d'essayer d'écouter ce qu'ont dit les autres, ce qu'ont dit les animateurs, etc. Et la deuxième idée sur le sujet, on a traité du courage, on a traité de l'amitié, on a traité, je sais pas, de l'humour, etc. Qui est quelques idées qui permettent de comprendre la différence entre humour et ironie, que c'est une connivence par rapport aux autres, quelles sont les limites de cette connivence, enfin voilà. Et avoir quelques idées un peu fermes qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'humour, que l'amitié, et c'est pas tout à fait pareil que l'amour, pour telle et telle raison, que le courage, c'est pas tout à fait la même chose que voilà, etc. Et que la fidélité. Premièrement, cette écoute. Deuxièmement, quelques convictions. Troisièmement, ce goût de l'esprit critique, c'est-à-dire de jamais prendre ce que vient de dire René, jamais prendre au premier degré, avoir cette suspension, comme a dit René, de façon à approfondir un peu cette réflexion. Voilà, on a gagné, on est content, c'est ça là, le café philo.
René Guichardon, je sais, je connais votre réponse à l'avenir, mais est-ce qu'il y a des sujets quand même qui sont interdits? Je sais que vous n'interdisez rien du tout dans les cafés philo, mais est-ce qu'il y a quand même peut-être une thématique, pour le coup, vous vous lancez pas dessus, quoi.
Donc, moi, dernièrement, donc c'est une expérience personnelle, il m'a été fait la demande de ne pas parler de la Covid.
Ah bah oui. Ah bon.
Oui, donc, alors... Pourquoi cette demande m'a été faite? Parce que donc certaines personnes connaissent mes positions par rapport à une position critique par rapport au gouvernement. Et donc je peux entendre leur demande si on ne peut en débattre, si on ne peut pas en débattre, eh bien c'est pas la peine d'en débattre. Néanmoins, si quelqu'un veut en parler, je ne vois pas pour quelle raison je le lui interdirais.
Il n'y a pas d'interdit, mais parfois il peut y avoir quelques réserves, c'est ce qu'on entend aussi.
Moi je m'impose une réserve de toute manière, mais je, je serais gêné de donner autorité à quelqu'un pour interdire à d'autres personnes de parler d'un sujet. Ça, je peux pas le permettre parce que ça va contre la liberté de penser qui doit rester dans les cafés philo.
Et on continue d'en discuter jusqu'à 11h ce matin dans Je pense donc que j'agis. On retrouvera aussi notre chroniqueuse dans 10 minutes pile, Stéphanie Gallet, qui nous montrera, qui vous parlera d'une photo. Il faudra fermer les yeux et bien observer, en tout cas la radio. Ça, c'est un petit défi. On écoute Stiletto tout de suite.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je lève mon verre, si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu sens que je veux? Que nos vivres soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos caresses en mes yeux soient notre sang. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses en mêlée soient notre sang. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses en mêlée soient notre sang. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres.
On s'en lasse pas de cette reprise de la chanson Gaffe aux autres de Ben Mazuet par Stiletto. On continue cette émission, je pense donc j'agis, consacrée au café philo et à l'art de savoir débattre, en tout cas d'apprendre à débattre, toujours avec nos deux invités, René Guichardan de l'association Café Philo à Annemasse et puis Frédéric Baumer de l'association Les Petits Socratiques. Combien de temps peuvent durer en général une discussion, Frédéric Baumer?
On a calibré ici au Petit Socratique à 1h30, 1h30, que ce soit en EHPAD, auprès des enfants, en prison, etc. C'est 1h30, on a calibré donc à 1h30, qui est le bon temps, parce que quand on dépasse, souvent ça décroche par rapport au sujet. Pourquoi pas, c'est sympa, hein, mais bon, mais ça nous arrive de dépasser. Un peu moins, c'est un peu dommage, parce que cette maturation, cette possibilité de progresser un peu, de s'élever. Je dis souvent qu'un café philo, c'est aussi se faire la courte échelle. Quand c'est trop court, la courte échelle marche pas bien, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc c'est 1h30 en ce qui nous concerne.
1h30 pour un seul sujet?
Un seul sujet. Un seul sujet, 1h30, mais un sujet... Il y a de quoi faire, hein, qu'on traite du courage, de l'amitié, de l'humour, de tout ce qu'on a, de tout ce que je pourrais citer, de savoir vivre ensemble les politesses, tous les sujets qu'on a sur l'éducation, par exemple, c'est quelque chose qui est riche. Et donc, 1h30, parce que un sujet, il y a énormément de dimensions sur un sujet, je prends l'exemple du courage, par exemple. Il y a le courage moral, il y a le courage physique, il y a le courage selon les circonstances, il y a le courage au quotidien, tout simplement se savoir prendre sur soi, et puis il y a aussi le courage d'un Jean Moulin, d'un Jean Caillavès. Enfin, donc on voit que toutes les dimensions du courage, à quel point ça infuse dans toute la vie et dans toutes les vertus aussi. En quelque sorte qu'il n'y a pas beaucoup de vertus, c'est une des théories de Yankelevitch, il n'y a aucune vertu sans qu'il y ait un peu de courage. Bon voilà, donc n'importe quel sujet, on en voit toutes les ramifications. Pas quand ça se passe bien, parce que parfois on reste sur quelques ramifications. Du moment que l'écoute a été là, que l'envie de parler a été là, que chacun a pu s'exprimer, ce que j'appelle la facilitation, que chacun a pu s'exprimer, que chacun se soit entendu, ce que j'appelle la régulation, et qu'on ait fait avancer le débat, ce que j'appelle la production.
René Guichardon, vous avez une anecdote peut-être à nous confier ce matin, un moment lors d'un café philo qui vous a peut-être marqué, comique ou pas d'ailleurs.
Il y a plusieurs moments, vous me prenez un peu par
au dépourvu
comme ça, mais hier, enfin lundi, nous avions parlé de la... excusez-moi, je cherche. L'oubli peut-il être un bienfait ? Et en fin de débat, un des participants a exprimé cette idée. Je ferai en sorte que nos souvenirs soient toujours bons, de sorte que tu n'aies rien à oublier. Et en fait, ça concluait d'une certaine manière le débat avec un sourire, et ça le déportait d'une autre manière. Donc ça, je...
Ça vous a marqué. Non, mais vous voyez, je vous ai pris au dépourvu, mais ça a fonctionné puisque c'était une anecdote qui a du sens dans cette émission. On arrive presque à la fin et je vais vous demander à tous, et même derrière votre poste d'ailleurs, de fermer les yeux puisque Stéphanie Gallet, tout de suite, va nous décrire, va nous montrer une photo à la radio. Écoutez bien. Comme chaque semaine, nous retrouvons Stéphanie Gallet pour la chronique Jeudi Photo avec le CCFD Terre Solidaire qui sélectionne une photo et notre chère Stéphanie la raconte à l'antenne. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, rebonjour à tous.
C'est d'une photo magnifique et grave d'ailleurs dont vous allez nous parler.
Oui, c'est un portrait, une photo tout en verticale. Le ciel occupe presque la moitié haute de la photo. C'est un ciel bleu très clair, presque blanc, sans aucun nuage. Un ciel à la chaleur incandescente où le soleil se sent à défaut de se voir.
Alors le CCFD n'a pas forcément l'habitude de photographier le ciel. Que nous montre cette photo ?
Eh bien, c'est la photo d'un homme dans une barque. Il est debout et tient une longue perche dans sa main gauche. Mais deux choses insolites attirent notre regard. L'habit de l'homme et surtout la quasi-absence d'eau autour de la barque. En fait, cette barque, elle est presque échouée dans une flaque de boue. Il y a vaguement un peu d'eau en arrière-plan, mais autour, la terre est brûlée par le soleil. Et on se demande comment manœuvrer ce frêle esquif avec aussi peu d'eau.
Et alors l'habit, vous nous en parlez ?
Notre homme est vêtu d'une sorte de très longue robe grise sur lequel il porte une longue veste noire. Le tout semble amidonné, très strict. Il se tient très droit. C'est une tenue un peu incongrue pour aller pêcher. En fait, a priori, il s'apprêtait à partir en ville quand il a vu la photographe et lui a montré sa barque et elle l'a prise en photo.
Alors, où sommes-nous ?
Au sud de l'Irak, là où se rencontrent les fleuves du Tigre et de l'Euphrate pour former les marais mésopotamiens. Un territoire jadis verdoyant, connu comme le Jardin d'Éden des récits bibliques. Mais ce trésor multimillénaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aujourd'hui menacé de disparaître. En raison des fortes chaleurs, il fait plus de 50 degrés l'été, les marais ont déjà réduit de 60%. À cela s'ajoutent les barrages construits en amont et les déchets rejetés en aval qui remontent en polluant les terres. Les poissons se font plus rares et le bétail peine à s'abreuver. Se nourrir devient un défi et contraint de nombreuses familles à quitter leurs terres.
Pourquoi le CCFD Terre Solidaire a-t-il choisi cette photo ?
Eh bien Melchior, je ne vous l'apprendrai pas. Nous sommes le jeudi 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat, d'où cette chronique qui fait un focus sur le drame des marais irakiens. Mais de façon plus générale, le CCFD Terre Solidaire estime que chaque année, 55 millions de personnes dans le monde seraient directement touchées par la sécheresse. du Moyen-Orient à l'Europe, en passant par l'Amérique du Nord et du Sud, la sécheresse s'intensifie et menace la survie des populations.
Et dernière question, qui a pris cette photo ?
La photographe Roberta Valerio a sillonné le sud de l'Irak à la rencontre des populations de pêcheurs et d'agriculteurs des marais mésopotamiens. Ils subissent de plein fouet, je vous l'ai dit, les effets du dérèglement climatique. Cette photo de ce pêcheur très digne, qui pose sur sa barque échouée, est une photo éminemment symbolique pour illustrer la désertification et pour dénoncer l'inaction climatique des États.
Et cette photo, vous pouvez la découvrir sur rcf.fr à la rubrique Jeudi Photo, également sur le site du CCFD Terre Solidaire où vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'avancée de la sécheresse à travers le monde. Merci Stéphanie.
Merci Melchior.
C'est dur hein, comme ça, Frédéric Baumer, d'imaginer une photo sans la voir. Est-ce que ça vous arrive dans certains cafés philo, Frédéric, de partir d'une photo pour débattre?
D'un visuel, oui, ça nous est déjà arrivé de distribuer un visuel, pas forcément, ça peut être un dessin aussi. Je me souviens quand on a animé Le Beau, qu'est-ce que Le Beau, d'avoir distribué un tableau, en l'occurrence le tableau de Raphaël sur la rencontre de Platon et d'Aristote, le fameux tableau qui est au Vatican. Donc de partir d'un tableau pour essayer de réfléchir sur le beau. Avec pour revenir à votre question précédente auprès de René, avec parfois des réponses très, très originales. Je me souviens qu'à la fin de ce café philo sur le beau, quand je faisais le tour de table sur qu'est-ce qui est beau pour vous, il y en a un qui a dit « mais ce qui est beau pour moi, c'est quand un autre m'apporte ce dont j'ai besoin ». C'est une très belle réponse. Il y en a un autre qui je me souviens d'un autre participant qui parlait très peu, et sur son chevalet, il avait fait un très beau dessin, donc il ne parlait pas. Mais à la fin, il est venu nous apporter son chevalet avec un très beau dessin d'un château, avec un beau chemin, des chemins et des arbres. Voilà. Donc, oui, pour recentrer sur votre question, oui.
Oui, c'est possible et ça a fonctionné. Et ben, c'est sur ces mots qu'on va finir cette émission. Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous pendant une heure. Frédéric Baumer de l'association Les Petits Socratiques, dont on peut retrouver plus d'informations sur votre site caféphilo.webs.com. Merci René Guichardan également pour votre participation. Non, je pense donc j'agis là aussi. Rendez-vous sur le site caféphilo.org pour aller plus loin. Je rappelle que vous êtes en Haute-Savoie, à Annemasse. Merci à Nathan, vraiment à Nathan, à Catherine et à Aurore qui ont permis ce matin la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain pour finir la semaine avec à 9h le Presse Club en compagnie d'Étienne Pépin et de nos deux invités. Et à 10h, prenez-en de la graine, votre émission de jardinage. Je vous souhaite avec un peu d'avance une bonne journée, ça c'est sûr, sur RCF. Et puis dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec l'information locale sur RCF. Bonne journée à tous.